téléchargez l'application Radio France pour découvrir. Écoutez des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct.
Deux affaires importantes, le jeune reporter Tintin va rendre visite à son ami le capitaine Haddock, devenu châtelain de Moulinsart. Il est évidemment accompagné de son chien Milou. Mais la gare de Moulinsart n'est plus qu'à quelques kilomètres. Pénétrons discrètement dans le compartiment.
Allons, Milou.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Lorsque j'étais enfant, au cours des années 50, et que nous guettions chaque mercredi, avec une joyeuse impatience, l'arrivée dans la boîte aux lettres du dernier numéro du journal de Tintin, les grandes personnes, comme on disait alors, nous jetaient volontiers un regard méfiant où je voyais de la condescendance et où je n'ai aperçu que plus tard l'esquisse d'une curiosité et presque d'une jalousie qui se sentait vaguement coupable. Mais quand, 20 ans plus tard, nous avons découvert que Malraux, dans Les chaînes qu'on abat, prêtait à De Gaulle, lors de sa visite à Colombey de décembre 1969, le mot bientôt fameux « En somme, mon seul rival international, c'est Tintin », nous avons compris que tout avait basculé et que l'univers, sorti du grand talent de Hergé, peut-être faut-il parler de son génie, faisait désormais partie de la culture universelle. En face de cela, quel étonnement demeure cependant, qui émerge par moments, et que nous allons tâcher d'éclairer ce matin en compagnie de Pierre Assouline, familier aux auditeurs de France Culture, et qui a publié naguère, en 1996, une biographie de Hergé qui a fait date.
Je ris de me voir s'aimer dans ce miroir. Je ris de me voir s'aimer dans ce miroir. Est-ce toi, Marguerite? Est-ce toi? Réponds-moi, réponds-moi, réponds, réponds, réponds vite.
Basta! Tace!
Maestro, caro maestro, prego da capo. Je ris de me voir si belle dans ce miroir. Je ris de me voir si belle dans ce miroir. Et c'est toi, Marguerite. Et c'est toi, réponds-moi, réponds-moi, réponds, réponds, réponds vite. Ah, s'il était ici, s'il me voyait ainsi, comme une demoiselle, il me trouverait belle.
Monsieur Rassouline, bonjour.
Bonjour, Jean-Noël Jeannet.
Ai-je besoin de le préciser, c'était la Castafiore qui chantait l'air des bijoux de Faust, repris dans un spectacle consacré au Temple du Soleil en 2003 à Bruxelles. La Castafiore qui a donné, je ne sais pas si Faust et si Gounod en avaient besoin, un lustre, un éclat tout particulier à cet air d'opéra.
Et Milou.
Milou est là, Castafiore est là, Tintin n'est pas encore apparu.
Non, là en l'occurrence non. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'apparition de Tintin, elle est quand même concomitante à Hergé. Je veux dire par là que ça ne fait qu'un. Hergé, Tintin, Georges Remy, parce qu'il faut quand même commencer par citer son nom. Je dis bien Remy, non pas Rémy, à la Belge. Ces trois personnages qui ne font qu'un. Et c'est très difficile de les dissocier. Parce qu'à chaque fois qu'on va en isoler un, on se rend compte que l'un des trois revient à la rescousse.
En somme, Madame Bovary, c'est moi, disait Flaubert. Tintin, oui. C'est moi, pourrait dire Georges Remy, pourrait dire Hergé. Je rappelle que GR a donné Hergé,
oui,
y compris à la fin, cette sorte de haine qu'il a avoué éprouver pour son propre personnage, comme s'il était là de la manière dont sa célébrité l'a enserré. C'est un des éléments, d'ailleurs, de cette tendance à la dépression qui est un des traits de Hergé.
Pas au début, hein. Ça va venir surtout après la guerre.
Mais je parle du moment où précisément il a pu paraître
près
de son grand âge. Il est mort en mars 1983, où il a paru éprouver particulièrement cette fatigue de Tintin, dont la célébrité avait fini presque par l'écraser.
C'est pas seulement la célébrité en l'occurrence qui l'a eu cette dépression, c'est évidemment des problèmes sentimentaux, mais aussi et surtout le travail. Parce qu'on n'imagine pas qu'en fait, l'essentiel de la production d'Hergé, le meilleur de ce qu'il avait à donner, il l'a fait dans une période finalement assez courte, entre 12 et 15 ans. Et qu'ensuite, il a un petit peu, comme on dit, géré la notoriété, mais qu'il a produit une quantité d'albums exceptionnels en un laps de temps finalement assez bref.
Les années 30 et la période de l'occupation.
Voilà, c'est ça.
Le début.
Des années 30 à la fin des années 40, ça a été un moment intensif. Bon, c'est le cas aussi d'autres créateurs. Hein, quand on regarde par exemple Ionesco, en 10 ans, l'essentiel de son théâtre était sur le papier. Ça aussi, c'était entre 1950 et 1960, il a tout fait. Eh bien, il y a d'autres créateurs où c'est aussi le cas. C'est plutôt la règle. L'exception, c'est le créateur qui étale son génie sur une très longue période.
Il y a une surprise qu'exprime Hergé, en particulier à la fin de sa vie, c'est la découverte de l'universalité du succès. Une surprise heureuse plutôt, mais par exemple, peu de temps avant sa mort, vous le notez dans votre biographie, Pierre Assouline, il exprime sa stupeur après la lecture d'une lettre d'un petit Indien qui est ravi de ses albums, et il dit « Je ne comprends pas qu'un enfant d'une culture si différente puisse éprouver un tel intérêt » pour mes personnages. Et ça, c'est une surprise que je voudrais que nous éclairions pendant cette émission. Un personnage qui est né de façon si datée dans les années 30, nous allons le montrer, à un moment particulier et dans un pays spécifique, la Belgique, comment il a trouvé cet écho planétaire, cet écho universel, un écho qui n'est pas prêt de se taire.
Je crois que là, dans la lettre que vous citez, Hergé ou Georges Remy, peu importe, est tout à fait sincère. Ce n'est pas une naïveté feinte. Je veux dire par là que, bon, il était conscient de son succès, mais c'est vrai que pour lui, Tintin était quand même un personnage né en Belgique, avec toutes les qualités et les défauts d'un Européen. Je ne dirais pas d'un Belge, on va y revenir, mais ça a évolué. Et quand il recevait ses courriers, notamment à partir des années 50, venus du monde entier, jusqu'à la fin de sa vie, il trouvait ça exceptionnel. Il a été invité, début 70, il a été invité à New York pour le premier congrès mondial de la bande dessinée. Et là, ils l'ont traité véritablement comme le pape de la bande dessinée.
Le héros absolu.
Oui, et là, il s'est rendu compte qu'effectivement, il avait inspiré pratiquement tous les plus grands créateurs contemporains, enfin plus jeunes que lui, de bande dessinée. Et ça l'avait, à la fois, ça l'avait comblé, sur le plan de l'orgueil et la vanité, ce qui est très normal. Et en même temps, ça l'avait un petit peu effrayé, enfin donné le vertige, parce que...
Sidéré au sens propre.
Oui, c'est sidéré, parce qu'il se rendait compte que, ben, effectivement, il avait eu une influence considérable, bien au-delà de l'Europe.
Ce qui n'empêche pas que, quand on considère les débuts de son œuvre, l'apparition de Tintin à la fin des années 1920, on a le sentiment qu'il y a une particularité de ce milieu dont on peut tracer les traits essentiels, cet univers de... très catholique, catholique vraiment de droite. Il écrit dans le supplément du 20e, le petit 20e, sous l'influence d'un personnage très typé, l'abbé Valiez.
Alors, Hergé est vraiment né dans un moule dont il n'aurait jamais dû sortir en principe. Et ce moule est très identifiable. Hein. C'est vraiment la Belgique des années 20, comme vous le dites, très catholique, ultra conservatrice, disons réactionnaire, colonialiste évidemment.
Passionnément anticommuniste, naturellement.
Anticommuniste, bien entendu, on peut en sortir. Certains en sont sortis, certains claquaient la porte, mais ils sont plutôt rares. Lui, par tempérament, c'est plutôt quelqu'un... Ce n'est pas un rebelle de tempérament, loin de là. C'est plutôt un garçon obéissant. Et c'est quelqu'un qui va, très jeune, suivre cette voie qui est tracée. J'entends cette voie sur le plan moral. Je n'ose pas dire idéologique, moral, disons. C'est beaucoup plus un tempérament qu'un engagement politique.
Mes livres, dit-il, sont ceux d'un jeune Belge nourri de préjugés et d'idées catholiques, des livres qu'aurait pu écrire n'importe quel Belge dans ma situation.
Oui, voilà pourquoi, au lieu de se diriger vers le mouvement anarchiste, eh bien, il se dirige naturellement vers le journal le plus conservateur de l'époque, et en même temps qui est un grand journal. Dans le XXe siècle, il va trouver en la personne de l'abbé Wallet. Alors moi je dis Wallet parce que je ne sais pas comment on dit, hein, selon qu'on est...
C'est un endroit de liberté ici, Pierre Asseline, dites comme vous voulez.
Valaise, Wallet, enfin bon, on s'est compris, W-A-2-L-E-Z.
Vous dites Waterloo et pas Waterloo. Ou bien,
voilà, oui. Voilà, et il va trouver en lui une conscience et un père spirituel, à la fois sur le plan religieux, au sens propre du terme spirituel, et en même temps sur le plan, j'allais dire, entre guillemets, politique. C'est lui qui va lui mettre le pied à l'étrier. En le faisant travailler au XXe siècle et au petit XXe, il va faire travailler quand même un garçon d'une vingtaine d'années, qui est évidemment inconnu du public, mais qui n'a pas non plus de relations ni un réseau social qui fait qu'il s'imposerait. Non, c'est un garçon qui, de toute évidence, aime dessiner, a un vrai don pour ça, qui a fait l'école Saint-Luc, mais qui n'est pas resté.
L'école Saint-Luc ?
C'est une école de dessin à Bruxelles, et qui est un autodidacte en fait, mais qui a une intuition, un instinct très fort pour le dessin.
Plus un gros travailleur.
C'est un travailleur, il est sérieux. Quand on regarde les photos de Georges Rémy quand il avait 20 ou 25 ans, on est frappé par le côté extrêmement sérieux du personnage. Il est très bien coiffé, il porte la cravate bien entendu, il est en chemise
blanche. L'arrêt est impeccable.
L'arrêt est impeccable et surtout il se tient très droit. Je trouve que tout est dans ces photos, déjà. Il se tient extrêmement droit, et non pas avachi comme vous et moi, Jean-Noël Jeannet.
Parlez pour vous.
Oui, d'accord. Il est très raide, j'allais dire. Parce qu'on sent bien que ce n'est pas la souplesse qui l'anime. Et on sent bien aussi que si on lui confie un travail, il exécutera. Là, en l'occurrence, il s'agit de raconter des histoires de Boy Scout. Puisque, il ne faut pas oublier, dès le départ, il est et il restera toute sa vie un scout. Alors pardonnez-moi si parfois je fais les analogies en permanence, c'est parce que j'ai toute une famille de papiers en moi. Cette famille de papiers, ce sont les héros de bibliographie. Donc, quand je discute par rapport à Hergé, je pense tout de suite à Henri Cartier-Bresson. Et Cartier-Bresson, photographe, toute sa vie est resté scout. Il avait dans sa poche son couteau, son canif de scout, jusqu'à sa mort.
Oui, j'ai vu une fois, effectivement, chez des amis sortir son couteau à la stupéfaction générale.
Oui, soit pour menacer quelqu'un qui voulait le prendre en photo.
Un beau laguiole.
Soit pour éplucher une pomme. Et Hergé n'avait pas de canif dans la poche, mais est resté toute sa vie un scout. Toute sa vie. Il en a gardé l'esprit, le tempérament, la personnalité, l'âme, très important, mais j'allais dire aussi l'idéologie.
D'ailleurs, il a été souvent accusé d'être un fief réactionnaire. Il a eu à se redéfendre constamment dans les nombreuses interviews qu'il a données dans les dernières années de sa vie, quand il est devenu universellement célèbre. En voici un exemple. 13 décembre 78, il est interrogé à Interactualité par Didier Hadès.
Il y a eu d'autres Tintins où, par contre, on vous a accusé d'être un petit peu réactionnaire, d'avoir une vision réactionnaire du monde.
Lesquels, par exemple ?
Je n'ai pas tous
les... Le Congo.
Le Congo, par exemple.
Les Soviets.
Tintin au Congo, chez les Soviets.
C'est sûr.
Bien, alors, est-ce que vous pensez vous engager politiquement lorsque vous dessinez des aventures de ce genre ?
Mais d'abord, ça s'est passé il y a très longtemps. N'oubliez pas que Tintin est un journaliste, au départ. L'idée d'un journaliste.
Votre fascination, d'ailleurs.
Pardon ?
Vous rêviez d'être journaliste.
Oui, justement. Je travaille dans un journal, pas comme journaliste, mais enfin, pour moi, le héros, c'était le journaliste, c'était le grand reporter. Le grand reporter, c'est les
Albert Londres, Kessel,
des choses comme ça. Voyager au bout du monde, le Transsibérien, l'Orient Express, enfin, tout ça. Aller dans les points chauds du globe. Et Tintin est allé, à l'époque, vers les points chauds. Le point chaud, c'était la Russie, à ce moment-là. Mais n'oubliez pas que Tintin est aussi un reporter, c'est-à-dire, en principe, un miroir. Il a reflété Il a regardé les événements qui se sont reflétés en lui, des événements du moment, dont justement l'antisoviétisme farouche des années 30. C'est certain.
Il était en Congo, alors.
Tintin en Congo, mais c'était l'époque colonialiste.
Vous étiez un affreux colonialiste.
Mais non, mais l'exposition coloniale à Paris aussi. Tout le monde était colonialiste, pour finir. C'était une espèce d'ambiance. Vous dites, Tintin a reflété ça. Il a été le miroir qui a montré ça.
Cette notion de miroir est importante, il y revient souvent.
Oui, il n'a pas tort, Hergé, de dire que Tintin est un miroir. Il faut ajouter un miroir qui déforme et qui caricature. C'est un dessinateur. Et donc tous ces personnages et toutes ces situations sont des caricatures délibérées et proclamées, revendiquées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il accuse le trait en permanence. Donc à une époque où la Belgique était un petit peu colonialiste, enfin elle est colonialiste, dans les aventures de Tintin, elle est très colonialiste.
Parce que c'est anti-bolchevique, il est très anti-bolchevique.
Voilà. Rappelez-nous ce que c'est le média qui veut ça. C'est le média, mais à part ça, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il aurait pu réagir dans l'autre sens. Mais ce n'est pas son tempérament, ce n'est pas lui. Donc, quand il dit la Belgique était colonialiste, oui, Hergé l'était également. Hergé correspondait à l'ère du temps, parfaitement. Parce qu'il faut quand même dire une chose. Au même moment, à l'époque où Georges Rémy dessine le Congo, dessine les Soviets, etc., vous avez déjà le retour d'Urs d'André Gide. Vous avez déjà Georges Simenon qui va en Afrique, qui montre la même Afrique qu'Hergé, mais qui conclut « L'Afrique nous regarde en face et l'Afrique nous dit merde ».
Il y a aussi le voyage au Congo du même André Gide, qui n'est pas de la même tonalité.
Bien sûr. Donc tous ces gens-là, Gide, Simenon et quelques autres, ne sont pas des anticolonialistes, mais ils critiquent très férocement et très durement la métropole coloniale, parce qu'elle dit le colonialisme tel que vous le pratiquez est inhumain, il est absurde, il est bête, mais en même temps ils ne disent pas il faut le supprimer, ils veulent bien entendu l'humaniser et l'améliorer. Hergé, lui, pas du tout. Lui prend cette réalité, l'épouse parfaitement et enfonce le clou parce que c'est aussi son média qui veut ça.
Il y a aussi les pères blancs qui sont importants dans Tintin au Congo.
Parce que les pères blancs font partie, évidemment, du paysage du colonialisme, et aussi parce que la souche, la matrice de l'esprit de Georges Rémy, c'est quand même le catholicisme. C'est l'Église de son enfance, c'est son berceau. Hein.
Puis il a toujours expliqué qu'au fond, tout le monde était effectivement colonialiste. On n'avait pas, comme vous le dites, l'idée d'un recul. C'était l'exposition coloniale en France de 1931. Il dit que les tavernes s'appelaient le colonial, les groupes des hôtels étaient principalement des gens de couleur noire, le cirage portait la marque Negrita, et tout cela est incontestable. Il y a même une loterie coloniale en Belgique. Ça, c'est pour l'Afrique, c'est pour le Tintin au Congo.
Il faut rappeler que les personnages noirs, qu'il appelle des nègres, comme tout le monde, sont essentiellement paresseux, lourdeaux, naïfs et amateurs de sieste, et écrasés par le soleil et par la nature. Mais n'oubliez pas aussi que ça, c'est Tintin au Congo, tel qu'on l'a découvert en son temps, dans son jus, c'est-à-dire dans les colonnes du Petit 20e et dans l'album qui a suivi. Si les auditeurs d'une nouvelle génération qui nous écoutent actuellement se précipitent pour acheter Tintin au Congo, attention, il faut quand même leur dire que l'album ne correspond plus à ce qu'il était à l'époque.
Alors c'est un aspect passionnant, c'est à étudier,
c'est la réécriture.
Et que les tintinologues n'ont pas manqué d'éclairer, c'est-à-dire la constante réécriture de ces albums. Sauf pour le premier, Tintin au pays des Soviets, qui trouvait si maladroit qu'il a mis très très longtemps à autoriser qu'il soit republié.
Maladroit, enfin il le trouvait maladroit et aussi il savait que ça poserait des problèmes. Il ne faut pas oublier que ce qui est intéressant, c'est que c'est dans les années 50... à partir de la fin des années 40, début des années 50, que Hergé entreprend la refonte de ses albums. Alors il dit, je le fais pour des raisons techniques, parce qu'il faut les mettre en couleur, il faut les coloriser, et parce qu'il faut, pour des raisons techniques par rapport aux presses à imprimer, à l'impression, il faut harmoniser le format, les cases, etc. Ce qui est vrai. Mais d'un autre côté, il en profite pour nettoyer ce qui doit l'être sur le plan du politiquement correct. Donc ça, on pourrait en parler. Hein. Il y a des choses, évidemment, sur le racisme, sur l'antisémitisme, mais aussi sur l'alcool. L'alcool du capitaine Haddock, pour les albums américains, etc. Mais le plus intéressant dans cette histoire, dans ce processus de refonte, par rapport, encore une fois, à une sorte de politiquement correct qui ne s'appelle pas comme ça encore à l'époque, c'est que ce n'est pas la volonté d'Hergé. s'est imposé par Casterman, son éditeur. Ça a été passionnant pour moi de retrouver toute la correspondance de la fin des années 40, début des années 50. C'est Casterman qui exige d'Hergé, et Hergé répond « Mais tout ce que vous faites là, tout ce que vous demandez de faire, c'est uniquement pour qu'on plaire non pas aux Noirs d'Afrique, qui ne nous demandent rien, mais pour qu'on plaire à la gauche occidentale bien pensante, qui ne supporte pas tout ça, et qui veut de moi une sorte de mea culpa. » Alors, lui, il est contre. Mais à la fin, Casterman insiste tellement, en lui faisant miroiter que c'est aussi pour des raisons commerciales, parce que vendre des albums qualifiés de, entre guillemets, racistes dans les années 50, c'est difficile. Ou vendre un album comme Étoile mystérieuse où l'anti-héros s'appelle Blumenstein, c'est difficile aussi.
Alors on change en Bollwinkel, effectivement, oui, en lui laissant les traits généraux que la caricature antisémite appliquée aux juifs en général.
Et le pire. Et là, on voit que Hergé ne s'en sort pas. C'est que il est d'accord pour enlever le nom typiquement juif polonais de son héros de banquier new-yorkais, qui est un anti-héros, parce qu'il a le mauvais rôle. Puisqu'on lui explique qu'après la Shoah, c'est pas possible. Enfin, après
et qu'en plus, les Américains ont une autre figure comme 1940.
Oui, mais là où il n'en sort pas, c'est qu'il dit d'accord, ben, je vais l'appeler Bollwinkel. Ça veut dire c'est une friandise en flamand, etc. Ça passera très facilement. Et à ce moment-là, il appelle Bollwinkel et il reçoit un courrier d'une lectrice qui lui dit « Mais monsieur, je m'appelle Bollwinkel, c'est un nom typiquement juif, comment osez-vous, etc. » Donc bref, il n'en sort pas, quoi.
Il n'en sort pas et il continue de s'en justifier longtemps après au micro de Jean-Pierre Elkabbach qui lui demande si les racistes ont dès le 28 avril 1975.
Vous le savez, il y a personnages sympathiques et familiers que nous connaissons bien.
Oui, je vois.
Mais il y a une catégorie établie par Vendrome qui mêle les Indiens, les Arabes, les Noirs, les Jaunes, bientôt les Sud-Américains, qui sont... pratiquement tous, généralement, les bandits et les mauvais.
Oui, somme toute, une façon élégante de me dire que je suis un affreux raciste.
Ah, je ne sais pas, je vous le demande. Parce que vous disiez tout à l'heure que ça traduisait le monde tel que vous le voyez.
Il y a dans ma panoplie de bons hommes, il y a des blancs, des occidentaux, il y a de tout. Et y compris, donc, il y a des bons, il y a des mauvais.
Oui, mais ceux qui aiment lire Tintin, comme la plupart d'entre nous, moi aussi d'ailleurs, nous nous étonnons du fait que, par exemple, très souvent, et c'est une question que nous aurions bien voulu vous poser depuis longtemps, à l'époque où nous étions gamins, pour quelle raison tous les grands bandits, les individus louches ou inquiétants avaient des noms à consonance étrangère, Astapopoulos, Alonso Pérez,
vous avez raison, c'est vrai.
Omar Ben Salad, Ben Salem.
Oui, mais il y en a d'autres, enfin, il y a d'autres aussi, mais enfin, je trouve que ces mots, ces noms... C'est pas spécialement pour faire endosser par l'autre, par l'étranger, la responsabilité de mauvaises actions, mais pour moi, c'est de l'exotisme, enfin. C'est effectivement un autre qui est mauvais.
Et vous, de quel côté voyez-vous les bons et les méchants, Hergé ?
Ah, c'est difficile à répondre à cette question-là, parce que rien n'est jamais tout à fait noir, rien n'est jamais tout à fait blanc. Le monde est fait, au fond, de choses grises.
Est-ce que vous croyez que l'exotisme qui règne dans les albums de Tintin donne une image réelle des pays étrangers dont vous parlez ?
Oh, écoutez, non, sûrement pas. J'y ajoute certainement une part de mon rêve à moi. Encore que lorsqu'on représente ces pays étrangers, ces pays exotiques, on se base en général sur des photos, sur des livres qui décrivent le pays. Et donc, on en donne une idée la plus juste possible. Mais il y a toujours une part de rêve.
Hein. Des pays que vous n'avez pas forcément visités.
Forcément, oui, c'est ça, oui.
Alors pour les Picaros, on parle de l'Amérique du Sud et parfois même de l'Uruguay. Il paraît, certains m'ont dit que vous étiez peut-être inspiré de ce que vous considérez peut-être comme un Tintin français, Régis Debray.
Oui, j'y ai pensé. C'est vrai, j'y ai pensé. J'ai pensé à cette période où il a été emprisonné. Et j'ai pensé à Che Guevara, j'ai pensé à ces guerrieros, oui, sans qu'on le reconnaisse. Et Régis Debray n'est pas en scène, hein.
Oui, il aurait apporté son aide à Régis Debray ou à Che Guevara dont il parle.
Oh, ben peut-être bien. Peut-être bien, mais la question ne s'est pas posée.
Note en bas de page, Pierre Assouline, Paul Vendrome, auquel il est fait allusion, est le biographe de Hergé qui vous avait précédé sur ce chemin.
Oui, Paul Vendrome qui est belge, qui est un excellent critique littéraire et spécialiste de la littérature des écrivains de droite, et notamment ceux de l'occupation de la collaboration, ce qui n'est peut-être pas totalement étranger aussi par rapport à la compréhension d'Hergé. Je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit. Moi, je crois que c'est une facilité de faire d'Hergé un homme qui divise le monde entre les bons et les méchants. Malgré la caricature, il est beaucoup moins manichéen qu'on le croit.
Je suis gris, dit-il.
Mais il a raison. Il a raison, et ce n'est pas une façon de fuir l'accusation ou la dénonciation que de dire qu'il est aigri. Il est aigri parce que, par exemple, là, on a entendu, oui, tous les étrangers chez vous sont mauvais. Ben, les Indiens, non, par exemple. Dans Tintin en Amérique, il adore les Indiens, il prend leur défense. Et plus tard, dans les années 60, lui qui se mobilise rarement pour des raisons politiques, pour des motifs politiques, lui qui est un individualiste forcené, va se mobiliser pendant des mois pour faire libérer un Indien de l'armée des États-Unis qui était à Francfort, dans les troupes américaines stationnées en Allemagne, et qui, je crois, avait voulu déserter. Il a été rattrapé et condamné très lourdement. Eh bien, Hergé a monté un comité de mobilisation pour défendre cet homme uniquement parce qu'il était Indien et qu'il avait un grand faible pour eux.
Ces malheureux Indiens qui sont écrasés par les pétroliers dans Tintin en Amérique, effectivement.
Bien sûr, dans Tintin en Amérique, il les défend.
Il est presque aussi sévère à l'égard des Américains qu'à l'égard des Soviétiques.
Oui, Tintin en Amérique, c'est très intéressant parce que dans l'édition originale, il y a les gangsters qui sont noirs. Eh bien, après les années 50, il a dû les blanchir. Soudain, les gangsters deviennent blancs. Donc, c'est un peu plus compliqué que de dire il y a des bons, des méchants, etc. Tintin en Amérique est assez fascinant parce que c'est un album qui est inspiré de Scènes de la vie future de Georges Duhamel. Il ne faut pas oublier que Hergé n'a pas voyagé. Il a voyagé et fait voyager dans ses albums, mais il n'a pas quitté Bruxelles pour
Duhamel
l'essentiel.
Duhamel était très très sévère à la guerre des États-Unis d'Amérique et dont le livre a eu un immense succès au début des années 30.
Immense succès, et ce qui est intéressant, c'est ce qu'en a retenu le dessinateur Hergé.
Chicago, oui. On voit effectivement Tintin qui échappe de peu au risque d'être transformé en mortadelle.
Mais que retient Hergé de la lecture de Georges Duhamel? Il retient une dénonciation du machinisme, de la consommation, de la publicité, de la standardisation et donc finalement de la modernité. C'est ça qui lui fait peur. Et ça, ce qui est intéressant, ce serait de faire une étude de littérature comparée entre Tintin l'Amérique et Tintin les Picaros. Parce que ça, c'est les deux arcs. Hein. On est au tout début de l'œuvre et on est à toute fin de l'œuvre.
Le dernier album.
Et qu'est-ce qu'on voit dans les Picaros? Une dénonciation des multinationales.
Et c'est là qu'on le trouve rejoignant Régis Debray, à la surprise peut-être de certains qui nous ont entendus.
Mais oui, c'est pour ça que Hergé est plus compliqué qu'on le croit. Bien entendu, il reste fondamentalement un garçon issu du scoutisme catholique, conservateur, réactionnaire, et toute sa vie il restera. Mais le même homme est capable de dénoncer les Japonais et prendre la défense des Chinois dans le Lotus bleu.
Alors, grand ouvrage.
Non, mais c'est quand même assez surprenant.
Mais c'est par là, probablement, par ce contraste, on y revient toujours, entre le caractère très typé, finalement, de Georges Rémy d'Hergé, très, très daté, et de son personnage, et sa capacité de nous porter vers l'universel aujourd'hui.
Mais oui, parce que, en principe, étant ce qu'il est, il aurait dû se ranger du côté des Japonais, sur le plan idéologique. Eh bien, pas du tout. Il prend la défense des Chinois. Parce que Tintin prend la défense des Chinois. Bon. Et le Lotus Bleu, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est probablement, à mes yeux en tout cas, l'album le plus réussi.
À ses yeux aussi, puisqu'il disait que c'était son préféré avec Tintin au Tibet.
Oui, je comprends ça. Pourquoi? Parce que d'abord, ce sont deux piliers, hein, en amont, en aval. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce sont visuellement deux taches par les couvertures. Une tache rouge, une tache blanche. Ce sont deux bornes, une borne rouge, une borne blanche.
Fascination de la neige.
Donc ça marque bien les choses. Ensuite, ce sont deux livres qui comptent énormément dans l'esprit de Tintin. Le Lotus Bleu, c'est l'apologie des droits de l'homme. Et c'est probablement la naissance des droits de l'homme. Il y a une case où on a dit que les droits de l'homme étaient nés là.
Plus la lutte contre les stéréotypes, c'est-à-dire la méconnaissance de l'autre qui conduit à la haine. Il y a toute une page remarquable sur les clichés véhiculé en Europe
sûr,
à propos des
sûr.
Chinois.
Mais là, je pense, pour les droits de l'homme, c'est le moment précis. Enfin, il y a une planche où on voit Tintin qui sauve Chang
dans
le fleuve, qui est extraordinaire. Et puis, dans Tintin au Tibet, c'est l'apologie de l'amitié.
Alors, il y a Chang, justement. Il faut tout de même s'arrêter un instant sur Chang, personnage si considérable dans le destin.
Chang Chongyan.
Dites un mot de Chang.
Et même plusieurs, parce que je l'ai bien connu. Je l'ai beaucoup aimé. beaucoup aimé Chang.
Alors, ça va occuper toute la fin de l'émission.
Non, mais c'était vraiment... ce qui était extraordinaire, c'est que quand je voyais Chang et qu'il venait dîner chez moi, mes enfants qui étaient petits à l'époque disaient après à leurs amis à l'école, « Vous vous rendez compte, on a dîné hier soir avec Chang. » Et quand Chang venait dîner, il commençait le dîner par la bénédicité, toujours.
Ah, vous ne direz pas qu'il n'y avait pas des enfants privilégiés sur cette terre.
Il y a des enfants privilégiés, et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que leurs petits camarades disaient « mais c'est pas possible, dans Tintin, tous les personnages n'existent pas, ils sont inventés ». Or, Chang est le seul personnage qui existe réellement.
Il est venu en Belgique à ce moment-là, très jeune.
Voilà, il était étudiant à Louvain, à l'Université catholique de Louvain. Et Hergé, qui avait dans l'idée de faire un album sur la Chine, cherchait quelqu'un pour l'aider à dessiner les idéogrammes. Parce qu'il ne pouvait pas le faire tout seul.
Toujours le goût de la précision, il faut.
Ah oui, il faut être précis. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il a donc trouvé Chang, et ils ont eu extrêmement amis. Et Chang, non seulement l'a aidé à dessiner les idéogrammes, mais l'a aidé à connaître la Chine, que Hergé, évidemment, ne connaissait pas. Donc, il a raconté la Chine. Et ce qui est très drôle, c'est qu'effectivement, bon, il a notamment fait tout ce qu'on voit sur les banderoles de manifestations, dont dans Lotus Bleu, il y a des manifestations en permanence dans les rues, avec des banderoles sur lesquelles il y a des idéogrammes. C'est lui qui les a dessinées. Et dans les années 50, quand on a refait les albums, Hergé a demandé à de nouveaux experts chinois à propos qu'est-ce qui a marqué comme slogan de manifestants. Et ils l'ont dit, il y a marqué « Vive Chang ».
On ne peut pas minimiser dans l'œuvre de Hergé l'importance de l'humour. C'est aussi un élément, je crois, de sa permanence, d'un attachement et de son universalité.
C'est fondamental, parce qu'à force de parler de politique, à force de parler d'engagement, de racisme, de colonialisme, on oublie d'abord que c'est fait pour faire rire, pour faire sourire, et que 60 ans après, ça continue à émouvoir. Nous, c'est normal, parce qu'on est dans le bain de la nostalgie. Ça nous rappelle notre jeunesse, mais le mécanisme de l'humour...
Le début de notre jeunesse, vous voulez dire?
Oui, le tout début. Mais le mécanisme fonctionne toujours, puisque des nouvelles générations découvrent Tintin, ça leur plaît.
Ça marche toujours.
Ça marche toujours. C'est comme si on essayait d'imposer des jouets en bois. Des jouets en bois à l'heure de la vidéo reine et des jeux électroniques, hyper sophistiqués, ça paraît totalement aberrant. Eh bien, Tintin, la ligne claire... Le personnage de Tintin, le dessin de la ligne claire, c'est l'équivalent des jouets en bois. Et pourtant, ça marche.
Ce qu'on appelle la ligne claire, c'est un certain type de dessin qu'il a.
C'est le type de dessin.
Sans ombré. Sans...
Voilà, c'est pas ombré, c'est très net, c'est très sobre, c'est très efficace, c'est d'une propreté remarquable. Ça a fait beaucoup d'émules.
Alors après cet hommage absolument nécessaire à l'humour de Hergé, je reviens tout de même à l'environnement politique. On est obligé de passer sur l'oreille cassée, qui est également passionnante, parce que c'est un regard sur l'Amérique latine auquel Hergé reviendra à la fin, vous le disiez, avec les Picaros. Je voudrais que nous arrêtions un instant sur le sceptre d'Ottokar, parce que c'est un autre album très très inspiré par la conjoncture du moment. Alors écoutez cet extrait de 1959, au moment où on a souhaité faire une adaptation radiophonique de l'œuvre de Hergé.
Oula les amis, j'ai retrouvé le sceptre.
Non,
je l'ai retrouvé. Oula.
Oh, bravo Arloche.
Milou, il faut agir et vite. Attention, il va passer près de nous.
Il était tombé dans un taillis.
À nous deux, mon bonhomme.
Ça y est, j'ai le sceptre. Suivons-nous, Milou.
Rien à faire, mon petit, non. On ne passe pas.
Sauf qu'il peut. La police.
Vite Arloche, à la voiture.
Les secours arrivent, mais trop tard. Bientôt, le roi en personne est sur les lieux. Alors Tintin, sorti de son évanouissement, lui emprunte sa voiture. Et c'est une poursuite infernale qui commence. Sur le point d'être rejoint, les individus abandonnent leur véhicule et se sauvent dans les montagnes qui séparent la Sildavie de la Bordurie. Deux hommes sont neutralisés par les Dupont-Dupont et Tintin donne la chasse au troisième qui s'enfuit avec le sceptre. Il n'est plus qu'à 50 mètres de la frontière.
Oh, Milou, que faire? Oh, tant pis. Le sentier surplombe l'endroit où il doit passer. Une seule solution, je saute. Un, deux, trois.
Hey, ouf. Hey,
il était temps. À 2 mètres du poteau frontière. Ouf. Et j'ai récupéré le sceptre. Bon, notre homme est au pays des songes. Voyons ses poches. Voyons cela. Au commandant des sections de choc. Objet, prise du pouvoir. Rien que ça. J'attire votre attention sur ce qui suit. La veille de la Saint-Vladimir, nos agents provocateurs feront en sorte que des habitants de nationalité bordure soient molestés. Le jour de la Saint-Vladimir à 12h, les sections de choc occuperont le poste de Radio Clov PTT. Et c'est signé Mustler. Bon. Eh bien, Milou, il n'y a pas un instant à perdre. Allez, honte !
faut rappeler que Le Sceptre d'Ottokar, c'est un album de 1939, c'est-à-dire que c'est un moment très très daté. Et à la question de l'Anschluss, qui est en arrière-plan, l'Anschluss qui a d'abord échoué en 1934, qui a réussi ensuite en 1938.
Là, on est en plein dans l'actualité politique. Hergé n'est pas détaché, au contraire, il est en plein dedans. C'est très intéressant comme album parce que ça annonce la neutralité, entre guillemets, d'Hergé et de Tintin. Là, Tintin est on ne peut plus scout. Il veut voler au secours du monarque, non pas pour des raisons politiques, en principe, mais pour lui permettre de retrouver son sceptre. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Hergé prend l'actualité, la malaxe, la pétrie, et en fait quelque chose de sa manière. La cile d'avis.
Et la bordurie.
Et la bordurie. C'est quand même un mélange extraordinaire d'Albanie, de Macédoine. C'est une Macédoine balkanique, quoi.
D'ailleurs, je rappelle que le dictateur qui règne en bordurie s'appelle Müssler.
Alors, Müssler.
Mussolini, Hitler.
Oui, et c'est aussi Mussert. Anton Mussert, le leader du fascisme hollandais. Donc, vraiment, il arrive à la fois par les noms, par les costumes, par les injures, par le langage, par les traditions, les us et coutumes. Et pour moi, c'est vraiment le pot pourri balkan, dans toute sa splendeur. Et c'est en ça que c'est un album assez particulier, assez spécial. Mais surtout, c'est ce qu'il annonce qui est extraordinaire. C'est-à-dire que, bon, on est... Pour moi, c'est le meilleur reflet de la montée des périls. Dans un sens, je trouve que dans les manuels d'histoire, il faudrait imposer la lecture du Sceptre d'Ottokar en même temps que la lecture des grands traités diplomatiques, des livres d'histoire politique.
Ce n'est pas déjà le cas dans certains manuels.
Je ne sais pas. Est-ce qu'à Sciences Po, on ferait ça? Peut-être.
En Sciences Po, tous les étudiants sont d'ardents lecteurs de
Oui. Parce que est-ce au programme pour autant?
France Culture. Concordance des temps.
De me voir s'aimer dans ce miroir.
Jean-Noël Jeannet.
De me voir s'aimer dans ce miroir. Et c'est toi, Marguerite.
Alors, nous en venons maintenant à la période de la guerre, parce que c'est fondamental pour comprendre l'évolution de Hergé, période évidemment très, très typée, très loin de nous, et qui en même temps peut fournir l'occasion de réflexions également durables. C'est l'époque où on a parlé de Hergé comme embauché.
Alors, cette période de l'occupation est fondamentale pour tout le monde, et aussi pour Hergé, évidemment. Pourquoi ? Parce que pendant ces quatre années-là, ça a été un révélateur du caractère, du tempérament de chacun. On l'a souvent dit pour la France, mais il ne faut pas oublier que c'est exactement le cas aussi pour la Belgique occupée. La situation d'Hergé est simple. Hergé, on a oublié de le dire, est né dans un milieu aussi d'extrême droite. Il n'a jamais été rexiste. Il n'a jamais appartenu au mouvement Rex de Léon Tegrel, mais il a toujours eu des sympathies.
Rex, c'est l'avatar d'extrême droite en Belgique mouvement fasciste.
Voilà, qui a eu un tremblement de gloire à la fin des années 30, dans les années 36-37, où il a eu 20 députés au Parlement à la suite des élections. Donc, Hergé a des sympathies, mais il n'a jamais franchi le pas. Il n'aime pas spécialement De Grelle, qui est un fanfaron, qui d'ailleurs prétend à partout que c'est lui qui a inspiré Tintin, ce qui est faux.
Voilà une légende qui est estourbie.
Oui, mais il a... Georges Rémy, Hergé, a des amis parmi ce mouvement, des amis très proches de jeunesse, et qu'il va toujours défendre. Ne jamais oublier que Hergé restera toute sa vie fidèle à ses amis et à ses idées de jeunesse.
Il les a beaucoup aidés après 45.
Bien sûr.
Lorsque lui-même.
Et eux-mêmes étaient condamnés parfois très durement. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il a été embauché? Veuillez m'oublier qu'il n'a jamais été militant de quoi que ce soit, ni d'aucun parti, il n'a jamais eu de carte, il n'a jamais été adhérent. Mais.
Miroir.
Toujours. Mais en 1940, il y a quand même des engagements. C'est-à-dire qu'il accepte de travailler pour Le Soir. Le Soir, c'est le grand quotidien bruxellois de langue française. Et Le Soir est sous la coupe des Allemands. Et on lui demande de faire des dessins dans Le Soir, ce qu'il accepte. De continuer Tintin, ces séries, qui sont extrêmement populaires, et donc de donner des gages à l'occupant en travaillant pour Le Soir.
C'est le temps du crabe aux pinces d'or, de l'étoile mystérieuse, du secret de la licorne.
Voilà, il va beaucoup produire pendant ces années d'occupation.
Intense
parce
création.
Parce qu'il arrive lui aussi, grâce à ses relations, à obtenir du papier. Qui est quand même le nerf de la guerre d'un écrivain et d'un illustrateur et d'un dessinateur. Il a du papier pour ses albums, donc ses albums vont paraître, ils vont être des succès, ils vont être extrêmement lus, et ses bandes dessinées vont paraître régulièrement dans ce qu'on appelle à l'époque le soir volé. les résistants et les anticollaborateurs ne parlent jamais du soir autrement que comme le soir volé. C'est ça qui est frappant, c'est que ces quatre années vont être extrêmement denses, extrêmement riches et profitables pour Hergé, ce qui me permet de décrire dans la biographie qu'Hergé, Georges Rémy, fera partie de ces Belges qui ont mieux supporté l'occupation que la libération. La libération, pour lui, ça devrait être un moment de joie, comme pour beaucoup de Belges. C'est un moment de cauchemar, parce que le ciel s'assombrit, car la justice fait son office, et ça va être assez dur pour lui.
Détermination des inciviques, comme on dit là-bas. Voilà, il va en France, on parle plutôt d'indignité.
Indignité nationale, incivique, ça revient un petit peu au même. Écoutez, l'incivisme, s'agissant de Georges Rémy, c'est la moindre des choses, si je puis dire, parce qu'à côté de lui, il a quand même des amis très proches qui seront condamnés à mort. Certains sont exécutés, beaucoup sont en fuite, et un certain nombre en prison. Lui, en tout et pour tout, passera une nuit en prison. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on ne met pas Tintin en prison.
Il est protégé par Tintin.
Il est protégé par Tintin, ça serait se ridiculiser. Cela étant, il a vécu l'épuration à Bruxelles, il en a souffert, il a souffert pour ses amis, et ça l'a écœuré. Ça l'a tellement écœuré que non seulement, bien entendu, il aide ses amis, y compris les rexistes, tous ses amis qui sont menacés, même parfois de mort.
Certains ont été condamnés à mort et ont échappé de peu au poteau d'exécution.
Mais aussi, il songe, et il prépare ça très sérieusement, à émigrer, à quitter son pays pour vivre en Argentine.
Ça, vous le racontez quand même, longuement dans votre biographie.
Je le raconte dans livre, souvent... parce que j'ai découvert dans des lettres à la Fondation Hergé, grâce à Philippe Godin d'ailleurs. Ce qui est assez frappant, c'est que l'Argentine, c'est quand même pas un choix innocent. C'est quand même le refuge des anciens nazis et d'une grande partie de l'extrême droite française.
Avec le Paraguay et l'Uruguay voisins.
Ben oui. Donc, c'est là qu'il devait aller. Quand même pas un hasard.
De quand date ce projet avorté d'Hergé ?
De la fin des années 40. De mémoire, c'est 47-48.
Mais donc c'est antérieur, en fait, à ce moment de paroxysme de la guerre
froide. Oui, il était encore dans l'onde de choc de l'épuration, qui l'a vraiment beaucoup marqué. D'abord parce qu'il a eu peur. Il a eu peur d'être passé à tabac par des résistants à la dernière heure. Et il a eu peur de tout ce qui pouvait advenir, même d'être interdit, parce qu'il s'est retrouvé quand même un peu banni. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais il a été banni. Il aurait pu penser que ça durerait beaucoup plus. Ce qui l'a sauvé, c'est Tintin deux fois. D'abord Tintin, parce que, encore une fois, jamais un procureur n'aurait commis la maladresse de mettre Tintin en prison et ce serait ridiculisé. Ça a été le mot du procureur là-bas, procureur du roi. Et ensuite, parce qu'un résistant incontestable, qui s'appelait Raymond Leblanc, est venu le voir à ce moment-là pour lui dire « on va faire... » Le journal Tintin.
Salut Raymond Leblanc, il vient de disparaître,
oui,
il y a quelques
mois. Justement, c'est pour ça que je parle de lui. C'était un hebdomadaire. Il lui a dit, on va faire un hebdomadaire. Georges Rémy lui a dit, mais vous n'y pensez pas, je suis tricard. Je suis sur toutes les listes, liste noire, etc. Et Leblanc lui dit, mais moi je suis sur aucune liste, parce que moi je suis issu de la résistance. Donc moi on ne me fera rien, donc associons-nous. Ils se sont associés et ils ont fait cette réussite magnifique qui a bercé... vous, votre prime enfance et moi, ma tardive jeunesse, à savoir l'hebdomadaire, le journal Tintin, qui est une réussite au même titre que les albums et qui a été parallèle.
Le drame, c'était pour ma prime jeunesse ou ma jeune enfance, comme vous voudrez, que le Tintin de Paris, le Tintin français, qui a été également lancé à ce moment-là, donnait des planches avec un mois de retard sur celle de Belgique. Donc quand il nous arrivait d'aller en Belgique, d'un seul coup, on avait 4 pages. Mais après, il fallait attendre un mois entier pour pouvoir continuer l'histoire.
Et moi, qu'est-ce que j'aurais dit ? Puisque moi, je vivais à l'époque aux colonies, donc au Maroc. Donc c'est encore bien plus tard que vous.
Eh bien, dépassons ces quelques propos terriblement autobiographiques et venons-en à la production de la fin des années 40, et en particulier au trésor de Rackham le Rouge. Le secret de la licorne est juste avant la libération, le trésor de Rackham le Rouge.
Et c'est un binôme
Un diptyque déjà, un des premiers diptyques.
Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, c'est l'aventure, c'est l'esprit d'Henri de Montfred, un petit peu l'onde de choc des lectures de Kessel quand il était plus jeune, de Stevenson, enfin, c'est ce qu'on voit réapparaître. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, chez Haddock, on voit apparaître une volonté de retrouver un ancêtre aristocrate, très aristocrate et très noble. Et ça, on a compris bien plus tard que chez Hergé, Georges Rémy, c'était la volonté aussi de retrouver quelque chose de très confus, très enfoui en lui, qui serait une origine royale. Alors, il faut expliquer en deux mots. Hergé, j'allais dire, c'est une formule, est né de grand-père inconnu. Évidemment, il connaissait ses parents, mais quand il demandait « Mais mon grand-père, qui est-ce ?», on lui répondait « Ne pose jamais cette question. C'est beaucoup trop grave, c'est un secret, on ne peut pas te le dire. » Alors évidemment, quand on grandit pendant toute son enfance avec ce tabou du grand-père, un jour ou l'autre, ça ressort. Bon, et il a enquêté, il s'est renseigné pour savoir, et il s'est rendu compte que sa grand-mère avait fauté. Elle était gouvernante, cuisinière dans un château princier, chez un aristocrate, dans le Brabant wallon.
Méfiez-vous de la séduction des jeunes et la corde cuisinière.
Et parmi les commensaux les plus réguliers, il y avait le roi, Léopold, qui venait régulièrement chasser, et chassait pas que le faisant.
Alors, Haddock, effectivement, vous avez raison d'y insister, réintroduit l'épaisseur historique, alors que Tintin, il est en quelque sorte instantané à chaque moment. Et écoutez cette réflexion, justement, sur Haddock de Benoît Peters, qui est à la fois scénariste, écrivain, il est l'auteur avec Suiten des Cités obscures, qui est une grande réussite, et il parle de Haddock de la façon que voici.
À côté de Tintin, un personnage qui a tout ce que Tintin n'a pas. D'abord, il n'a pas la pureté. Mais il faut se souvenir du crabe aux pinces d'or. C'est une épave. La véritable épave qu'il y a sur ce bateau, c'est Haddock. C'est épouvantable. Il est là en train de pleurer. Il est berné par son lieutenant. Les cales sont chargées d'opium sans qu'il le sache. C'est même pas un mauvais garçon. C'est juste un imbécile, un nigo. Tintin va le sauver. Il dit « Pensez à ce que dirait votre vieille mère, etc. » Enfin, scène inoubliable. Le crabe aux pinces d'or, c'est un récit mythique. C'est le récit de la rédemption d'un personnage. Comment transformer une épave alcoolique en un alter ego du héros. Mais Haddock, donc, d'emblée, il a un passé. Il a un mystère, parce qu'il a bien fallu qu'il devienne celui-là, qu'il cesse d'être un brillant capitaine pour devenir ce malheureux. Et tout de suite, Haddock va être ce personnage qui, par rapport à Tintin, est attaché au passé. Ça va être ce personnage qui a une dimension temporelle que Tintin n'a pas. Tintin n'a pas de famille, on le sait bien, Tintin n'a pas de lien. Alors que Haddock, il a un ancêtre. Et avec Haddock, on a l'impression qu'Hergé peut puiser dans le fond de la littérature populaire. Et puis Haddock, c'est un personnage qui, touche par touche, se révèle. Chaque album apporte une nouvelle dimension, ce qui est moins le cas pour Tintin. Tintin est plus continu, en fait. Tintin est le fil rouge, non seulement dans les albums, mais d'album en album. Haddock, au début des 7 boules de cristal, c'est un snob épouvantable. Quand il est là, vous vous souvenez, avec son monocle tout fier de son château, traitant Nestor un petit peu de haut, avec ses chevaux qui n'arrivent pas à monter, c'est incroyable. Haddock, c'est celui qui veut et ne veut pas partir sur la Lune. Pour un marin, c'est quelque chose d'admirable que cet embarquement pour ces cieux lointains. Haddock, c'est celui qui ne veut pas partir au Tibet, mais qui voudrait encore moins laisser Tintin y partir seul. Haddock, c'est celui qui déteste la Castafiore, mais quand la Castafiore lui dit « Et cessez donc de porter ces éternels pullovers, ce n'est pas une tenue pour un homme de votre âge », bougonne une fois de plus, mais ne quitte plus le veston et la cravate jusqu'au départ de la Castafiore, et change de cravate scène après scène. Donc il n'est pas si insensible que ça à son genre. Et donc ça, c'est vraiment les trouvailles d'Hergé, album après album, d'apporter ces trouvailles qui font que ce personnage a une épaisseur romanesque, construite par touche. Construites, je dirais, virtuellement, mais qui font qu'on a l'impression de le connaître. Et puis Haddock, c'est l'invention langagière. Ça, c'est vraiment c'est le Rabelais de la bande dessinée, quoi. C'est le fort en gueule, et c'est vraiment un homme de bouche. Et ça, c'est d'une drôlerie extraordinaire, puisqu'on parle souvent de la bande dessinée comme d'un art de l'image, et qu'avec le capitaine Haddock, elle devient un art du verbe. Et des injures qui ne sont pas insultantes.
Pierre Assouline, vous rejoindriez Benoît Peters pour estimer que Haddock est peut-être le plus mobile, le plus évolutif des personnages, beaucoup plus que Tournesol ou que les Dupont et que Tintin, évidemment.
Beaucoup plus que Tintin, parce que Tintin, s'il y a bien un personnage qui ne bouge pas, enfin, l'évolution de Tintin en 70 ans, c'est d'abord qu'il a pris 2 ans, en 70 ans.
Et que les jeans remplacent les
Knickerbockers. Il est passé aux jeans, ce qui n'est pas une très bonne idée.
En plus, des jeans marrons très laids.
Oui, affreux. Mais Tintin ne bouge pas. Tintin, en plus, est un reporter qu'on ne voit jamais écrire et qui ne touche jamais d'argent. On ne sait pas comment il fait. Ça va être le seul. Non, Haddock, je suis assez d'accord avec Benoît Peters. Haddock est vraiment intéressant. Moi, ce qui me passionne chez Haddock, c'est deux choses. L'une qu'il a évoquée, c'est le langage, et qui est remarquable. Il y a une invention formidable de la part d'Hergé, qui a fait un vrai travail d'écriture et d'écrivain.
Avec une mutation également du vocabulaire pour être toujours plus correct.
Oui, moi je parlerai peut-être même de l'influence de Céline dans l'invention langagière. Même si Céline, lui, était grossier, souvent, et insultant et injurieux. Le génie d'Hergé, je crois, a été de garder la violence, la force, mais d'en faire quelque chose finalement de relativement doux. Moricaud, ce n'est pas doux. Fatma de prise unique, ce n'est pas doux.
Mais ça s'est supprimé dans les rééditions.
Ça a été supprimé, mais ça y était.
Ce qui reste, c'est Moula Gaufre. Et Bachibouzou.
Bachibouzou, que c'est sympathique.
Mais enfin, sympathique, c'est des affreux personnages qui ont massacré des Bulgares
en
1880.
Mais c'est devenu du ad hoc. C'est devenu un adhocisme. C'est vrai qu'anthracite, pour désigner un noir, c'est mal vu. Il y a ça aussi, c'est peut-être pas insultant, mais à l'époque, avec le recul, ça l'est quand même. L'autre chose qu'on n'a pas évoquée à propos d'Adoc qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est un grand dépressif.
Comme Hergé.
Oui, c'est un grand dépressif et qui noie sa dépression dans l'alcool. Il boit énormément. Comme ce personnage qui est censé susciter l'admiration des enfants, c'est un ivrogne, quand même pas oublié. C'est un grand alcoolique. Et ça, c'est un aspect des albums de Tintin qui est vraiment intéressant.
Et ça, pas question de l'effacer, même pour mettre au goût du jour. Aux États-Unis, il faut bien qu'il s'en accommode, par exemple.
Oui, mais on ne voit pas ce qu'il boit aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne voit plus la marque.
Pas du Coca-Cola, tout de même.
Ah ben, on ne sait pas. Parce que aux États-Unis, vous n'avez pas le droit de boire dans la rue. Il faut mettre un sac en plastique autour de la bouteille en public. Donc, ils ont mis un sac en plastique. Enfin, un papier. Et on ne voit pas la marque. Mais alors que dans les albums originaux, c'est du whisky. Donc ça aussi, ça a changé. Là aussi, quelque chose est passé. Non, Adoc est vraiment un personnage intéressant. Il est profond et il y a une tristesse au fond de cette dépression. Bien entendu, il y a une mélancolie et elle est permanente. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a fallu du temps pour nous apercevoir. En fait, on s'en est aperçu à partir d'une certaine époque, à partir des années 60 jusqu'à aujourd'hui, où véritablement les intellectuels et l'université se sont emparés du corpus de l'œuvre d'Hergé pour en faire un objet d'étude et un champ de recherche.
Significatif à cet égard est le propos de Michel Serres, qui a été professeur au Collège de France, académicien, qui a été un ami d'Hergé dans les dernières années de sa vie et qui en parle fort bien de la façon que voici le 8 mars 1993 au micro de Jean-Luc Hesse.
Il a écrit des livres dont il dit quelque part qu'ils sont valables de 7 à 77 ans, mais il oublie de dire qu'ils sont valables pour tous les degrés de culture. Il m'est arrivé de faire un bon cours à la Sorbonne de philosophie sur le fétichisme. Vous le faites avec Marx, vous le faites avec Freud, vous le faites avec Desboches, mais vous le faites aussi avec Tintin, parce qu'il y a, dans l'oreille cassée, une philosophie du fétichisme absolument unique et irremplaçable.
On parlait de l'universalité tout à l'heure. Tintin, c'est universel.
Oui,
c'est comme la géométrie.
C'est universel, ça se vend partout. Le succès est absolument considérable et il croit. Et par conséquent, je vous pose à mon tour une question. Citez-moi un seul auteur, né aux alentours des années 15-20, qui ait plu à la fois à la génération de votre arrière-grand-père, de votre grand-père, de votre père, de vous et de vos enfants. Il n'y en a pas d'autres.
Il faut terminer, Pierre Assouline, notre entretien sur l'universalité. C'est vraiment la reconnaissance planétaire, mondiale de Hergé et de son génie. L'époque où Marguerite Duras écrit dans France Observateur, les albums de Tintin des éditions Casterman tournent autour du monde. On peut dire qu'il y a une internationale de Tintin, que tous les enfants du monde civilisé ont une culture Tintin avant d'avoir la leur propre, qu'ils boivent le lait Tintin, tous uniformément comme eau de fontaine. Fin de citation.
Ce qui est intéressant, c'est que cette universalité, d'abord, elle est partagée par d'autres personnages en dehors d'Hergé. Je pense encore une fois à Simenon. Eh bien, les personnages de Simenon, pas seulement Maigret, mais ses romans, les romans de Simenon sont universels et intemporels. C'est-à-dire que 70 ans après, ou 50 ans après, ils se vendent toujours en 40 langues dans le monde entier.
Tout en étant belgicain, comme Hergé disait de lui-même.
Et c'est la topographie de la ville de Liège, partout où il va, dans le monde entier, et en même temps, des Esquimaux, des Japonais, des Chinois s'identifient.
Alors, mais pourquoi c'est-on ce expliquer ce mystère?
Sur l'universalité de Tintin, ce que je voudrais dire, c'est que elle est délibérée. Ce qui est frappant, c'est qu'Hergé, ou Georges Rémy, peu importe, dès le début, juste après qu'il ait fait les Soviets et Tintin au Congo, surtout, après Tintin au Congo, il modifie son personnage. Il lui enlève son côté belge et son côté catholique. Parce que c'est le deuxième album, là, Tintin est très belge, est très catho, mais juste après, il décide d'en faire un personnage international. Donc, soudain, la référence à la Belgique chez Tintin n'existe pratiquement plus. Dans ses lettres, avec notamment Casterman, mais pas uniquement, Georges Rémy le dit bien, qu'il l'a voulu ainsi.
il a organisé en somme son rayonnement universel. Il l'a voulu, peut-être l'a-t-il découvert et du coup l'a-t-il servi.
Mais très tôt, c'est-à-dire après le deuxième album. Donc ça c'est intéressant, il y a un projet. C'est ça que je veux dire, c'est que l'universalité n'est pas venue comme ça, chemin faisant, un peu par hasard et un peu en cas de circonstances. Elle répond bien à un projet rapidement bâti. Ça, c'est une intuition et c'est l'intelligence de Georges Rémy.
Sur cet aspect un peu abstrait de Tintin, il y a la grande question des rapports entre Tintin et les femmes.
Oui, moi je pense à autre chose à propos de l'abstraction.
Vous pourrez le dire après, bon, répondez d'abord.
Tintin, les femmes, ben, il n'y en a pas. Mais Hergé vous aurait répondu s'il avait été là, mais à 16 ans, on n'a pas de rapport avec les femmes.
Quand on est un jeune boy scout catholique.
Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de femmes. Cela dit, la seule femme, c'est une caricature, c'est la Castafiore. Alors on l'a fait un misogyne d'Hergé. Il dit non, c'est pas... Non, il dit c'est une caricature, oui, mais reste à Popoulos aussi, et à Doc aussi, ils sont tous des caricatures. Donc celle-ci est caricaturale.
Il n'y a pas d'enfant, d'ailleurs, il faut savoir que Hergé, semble-t-il, ne pouvait pas avoir d'enfant. Il a adopté avec sa première femme un enfant, puis il l'a rendu au bout de 15 jours, ce qui est assez singulier.
Oui, ça c'est l'aspect le moins reluisant de sa biographie, que je racontais dans la mienne, mais ça fait une page, mais bon, elle m'a valu bien des déboires, parce qu'effectivement, ce n'était pas à son honneur.
Il m'a frappé cette page, évidemment.
À propos d'un album, c'est presque trop beau pour des enfants. Mais bon, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Non, quand vous parlez d'abstraction, moi je pensais au rapport de Georges Rémy avec l'art.
Et à l'album ultime, inachevé, qui s'appelle « Tintin et l'Alpha ».
Oui. C'est un très grand collectionneur de peinture abstraite, puis de peinture moderne, enfin de peinture contemporaine. Et en ça, il me fait penser beaucoup à Claude Berry. Et je suis assez frappé parce qu'il se trouve que j'étais le biographe de l'un et l'ami de l'autre. Et je trouve qu'il y aurait quelque chose à faire de comparer un peu les deux approches et de la collection et de l'art contemporain, parce que dans les deux cas, ce sont deux autodidactes de l'approche de la peinture. Ce sont deux individus qui n'ont pas grande notion d'histoire de l'art, mais qui ont un flair, un sens presque inné, exceptionnel, pour sentir ce qui fait une œuvre d'art et qu'est-ce qu'un artiste.
Eh bien, hélas, il faut que je vous quitte, Pierre Assouline, que nous quittions Tintin, les Dupont, Tournesol, nous n'avons pas assez parlé, qui, sous sa surdité, me paraît cacher beaucoup plus d'allégresse que les autres personnages, la Castafiore, Séraphin Lampion, etc., etc. Toutes ces figures qui désormais peuplent notre imaginaire. Pierre Assouline, votre livre sur lequel, naturellement, j'ai fondé cette émission, votre biographie d'Hergé, a été publiée en 1996, sous le titre Hergé, et rééditée dans la collection Folio, chez Gallimard, facilement disponible, une réédition de 2003. Et puis, je ne peux pas vous quitter sans célébrer votre blog qui s'appelle La République des Livres et qui a désormais acquis un rayonnement, un succès qui fait honneur, je crois, aux lettres françaises.
Merci, je dirais même plus, merci.
Eh bien, je me hâte de répéter que vous retrouverez toutes ces informations ainsi que les références et documents sonores utilisés sur le site internet, le nôtre, moins bien, mais quand même très bien, de France Culture à la page Concordance des temps. Vous pourrez également réécouter et télécharger cette émission et, si vous le voulez, réagir en ligne. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet avec la collaboration d'Agnès Chauveau et de Meryl Moneghetti et de Patrick Molinier et de Michel Nestre et de Virginie Gresset et aussi pour les Archivinas de Florence D'Artois.